Je suis un grand garçon, je sais déjà souffrir.
Bonsoir, merci à tous d'être là. Je suis Guy Bertium, je suis président directeur général de Bibliothèque et Archives nationales du Québec. Et c'est un grand plaisir de vous accueillir à cette soirée, la troisième de cette série, la Bibliothèque 2. Ce soir, la Bibliothèque 2, Michel Rivard. Michel Rivard est auteur, compositeur, comédien, humoriste, animateur. On pourrait passer la soirée à nommer tous ses titres. Et bien sûr, un artiste polyvalent. Il a aussi une contribution au milieu du cinéma en tant que scénariste, comédien, sous la direction, entre autres, de Roger Frappier et Michel Brault, et enfin en tant que compositeur. On se rappelle également sa prestation dans la célèbre équipe des Rouges de la Ligue nationale d'improvisation. Mais, bien sûr, Michel a surtout contribué à l'enrichissement de notre chanson québécoise, tant au sein de Beau Dommage qu'en carrière solo, avec des titres qui sont devenus de véritables classiques, comme La Complainte du Phoque en Alaska, Libérer le trésor ou Un trou dans les nuages. Puis je suis pas sûr que c'est ces titres-là que toi t'aurais choisi, mais c'est ce qu'on m'a donné.
Les gens choisis.
Acclamé tant par la critique que par le public qu'il suit fidèlement depuis bientôt 40 ans. Bardé de prix et de distinctions, dont celle de Chevalier de l'Ordre national du Québec en 2005, Michel Rivard reste un artiste marquant et influent de la francophonie. De retour de Vincennes, où il représentait scène montréalaise au Festival América, et présentement en écriture pour le projet de la comédie musicale Les filles de Caleb. Il a donc accepté aujourd'hui de partager avec nous son amour des livres. Alors, la première question que j'avais, c'est, on dit bien encore en écriture alors que l'album est paru.
Oui. Ici, au Québec, on doit avoir le soutien, je dirais, de la radio pour amener une comédie musicale sur scène, mais en fait, on l'appelle opéra faux, nous autres, pour se distinguer un petit peu. Et donc, on a déjà mis en vente, je dirais, une sélection d'une quinzaine de chansons de l'œuvre, mais je suis, pour employer une expression à la mode, « in progress » pour le reste, jusqu'au moment où elle sera présentée sur scène. Donc, je suis en pleine création actuellement.
Et ça sera présenté en...
Ça sera présenté à partir d'avril 2011.
Avril 2011. Ouais. Ah, écoute, merci d'être ici. Je vous fais une petite parenthèse très simple. Normalement, les convenances voudraient que je vous voie mon invité. Je le fais toujours. Je vous vois tout le monde dans la vie. Michel, ça fait 45 ans que je le connais, comme dirait l'autre, 45 ans minimum. Et donc, on a convenu de se tutoyer parce qu'on se trouvait très ridicule d'essayer de se vouvoyer. On va sans doute se tromper, puis au bout de trois phrases...
Je me sentirais mal de vouvoyer mon premier drummer.
Ouais, alors...
fin de la parenthèse.
On va se tutoyer, si vous permettez. En premier lieu, donc, des questions pour campler ta bibliothèque, tes habitudes de lecture. À quel endroit tu t'installes pour lire normalement?
Assis en général.
C'est très bon.
Assis en général. C'est drôle, j'ai pas de... Je rêve, en fait, pour mes vieux jours, peut-être d'avoir le vrai coin lecture. Tu sais, le coin lecture avec entouré des livres que j'aime et avec qui je veux finir mes jours. Mais pour l'instant, ça a toujours été, dans mon cas, une activité... J'ai quelques fauteuils préférés. J'en ai un à la campagne, j'en ai un en ville. Il y a des endroits publics où j'aime aller lire. Il y a des coins dehors, aussi chez moi, où j'aime m'installer. J'aime lire avant de me coucher. J'aime ça. Je me rends pas toujours jusqu'où je me rends dans mon chapitre. Et le lendemain, des fois, je recommence quelques pages quand je travaille fort. Mais la lecture, pour moi, n'a jamais été quelque chose de sacré. C'est toujours quelque chose que j'ai fait quand j'étais étudiant. Je lisais dans le métro. J'aime me promener avec des livres. J'aime avoir des livres avec moi, que ça soit en tournée, à l'hôtel, au restaurant, quand je mange tout seul, si je suis en période de travail. Je lis. J'ai toujours un livre. C'est un espèce de besoin physique chez moi.
Es-tu un peu fétichiste? Est-ce que tes livres, t'es lis sans que tu veuilles que personne sache que ça a été ouvert? Est-ce qu'au contraire, t'es ratures, tu cornes les pages? Est-ce que tes livres sont impeccables?
C'est selon. J'aime que mes livres aient du vécu. J'aime savoir des fois, avec ma, ma mémoire phénoménale, j'aime ça dire, est-ce que je l'ai lu celui-là? Puis là, ah non, je l'ai pas lu encore. Non, j'ai un amour profond des livres, mais je n'ai pas de respect maladif des livres. C'est-à-dire que pour moi, il y a des livres dans ma vie qui ont été oubliés, il y en a d'autres qui ont été donnés. Ça, c'est quelque chose que j'adore faire. J'aime un livre, je le donne, je le rachète. Ou je le rachète pas si je ne l'aimais pas tant que ça. En espérant que la personne va l'aimer. Mais je suis un peu comme ça, ça fait partie un peu de ma vie. Je suis pas un archiviste, je suis pas quelqu'un qui a le besoin de toujours avoir, de toujours garder, de classer les choses, de tout garder. Il y a des déménagements qui ont vu des caisses de livres se perdre. Mais par contre, ça n'enlève pas l'amour que j'ai de l'objet comme tel, de son poids, de son odeur. Jusqu'à nouvel ordre, et je pense encore que ça m'étonnerait que ça change, mais je ne suis pas tenté du tout par le livre électronique. Je trouve que c'est quelque chose qui enlève, pour l'instant, là, il disait la même chose quand les autos sont arrivées, mais pour l'instant, je trouve que ça enlève bien de la poésie à l'objet. Il y a quelque chose dans l'objet, dans le poids, l'odeur, la couleur du livre qui est très importante pour moi.
D'ailleurs, on aura l'occasion d'en parler. Il y a même un livre parmi ceux que tu vas nous recommander, que tu as choisi précisément.
Ah oui, c'est arrivé
du
comme
poids,
ça.
De la taille, etc.
Ouais, oui.
Jean Soulard, qui participe à cette série-là, m'a dit que lui, il y avait ses auteurs qu'il lisait systématiquement. Il ne se pose pas de questions quand une nouvelle Amélie Nothomb paraît, il l'achète.
Ouais.
Toi, es-tu fidèle à des auteurs à ce point-là ou est-ce que c'est plutôt les titres, les livres qui t'attirent?
Bien, c'est-à-dire que le temps n'étant pas si élastique qu'on le prétend, à un moment donné, je me dis, si je me mets à lire systématiquement tous les livres de tous les auteurs que j'aime, j'en découvrirai jamais d'autres. Tu sais, j'ai pas ce temps-là. J'aimerais ça avoir. J'avoue qu'un de mes fantasmes dans la vie, c'est de n'avoir que ça à faire. Je serais un lecteur extraordinaire.
Mais tous ceux qui sont sur ta table de chevet.
Exactement. Ça va prendre quelques mois. Mais tout ça pour dire que j'ai eu des périodes dans ma vie où on a un coup de foudre et puis là, bien, tout de suite, on regarde est-ce qu'il y en a d'autres, puis on en lit deux, trois. Mais souvent, après avoir comme cerné un peu un auteur, je vais passer à d'autres choses pendant un bout de temps. Puis peut-être quelques années après, il y a un titre qui va sortir, puis je vais dire, oh mon Dieu, lui ou elle, j'ai aimé ses trois premiers, alors je vais lire le quatrième.
En fait, tu as triché un peu. On va vous remettre la liste des livres que Michel a choisi à la sortie. On t'avait demandé 10 livres,
ouais,
comme à tout le monde. Tu as fourni une liste de 23 titres. Alors, vous connaissez le paradigme de l'île déserte, avec quel livre vous partirez. Alors, dans le cas de Michel, il calerait avec l'île.
Oui, c'est ça.
Carrément. Mais c'est un indicateur. Ce que tu m'as dit, c'est que tu avais trouvé ça difficile, déchirant de choisir, d'arrêter ton choix.
En fait, ça n'a pas été déchirant de faire le choix. Ça a été déchirant le lendemain, quand j'ai relu ma liste, puis que je me suis dit, mais mon Dieu, j'ai oublié ça. Mais là, je me suis souvenu que j'avais déjà fait plusieurs fois l'exercice. On m'avait demandé de faire l'exercice, par exemple, pour les disques. Quels sont les 5 disques que tu amènes sur une île déserte? Et j'avais répondu au journaliste, j'ai dit, garde, je vais t'en donner 5, mais si tu m'appelles demain à la même heure, ça se peut que ce ne soit pas les 5 même. Tu sais? Alors donc, je suis très conscient que dans ma vie, moi, c'est la littérature, la musique, tout ça, c'est pas un concours. Il n'y a pas un concours pour dire que c'est le meilleur livre de tous les temps ou que c'est même mon livre préféré de tous les temps. Alors, j'ai choisi ce qui me semblait, au moment où on me l'a demandé, être des livres intéressants et des livres qui m'ont marqué puis qui m'ont touché. Mais il y a sûrement des titres qui pourraient changer demain et tout ça, et qui seraient remplacés par d'autres tout aussi intéressants et tout aussi bons.
Ton premier livre, t'en souviens-tu, le premier livre que tu as lu, le premier livre d'enfant?
Eh bien, non seulement je m'en souviens, mais Punch, je l'ai apporté! Ah!
Surprise!
Je l'ai apporté. Ça, ça contredit tout ce que je disais tout à l'heure, parce que, en fait, ce n'est que le hasard, je pense, qui fait que je l'ai encore, parce que je suis un très mauvais archiviste puis un très mauvais collectionneur. Alors, je pense que ma mère l'a gardé pour moi pendant une partie de ma vie, puis après ça, elle me l'a donné, puis il a survécu jusqu'ici. Ça s'appelle « L'Opéra de la Lune », et c'est Jacques Prévert. Et c'est le premier livre dont je me souviens. On m'avait donné ça en cadeau. Des amis de mes parents qui étaient arrivés de France et qui l'avaient acheté là-bas. Je n'ai jamais revu ce livre-là ailleurs que dans cet exemplaire-là. Et je dois dire que c'est un livre qui a ouvert la porte à beaucoup de choses. Il y a maintenant une littérature enfantine extraordinaire au Québec. D'ailleurs, on est champion là-dedans. Mais je dois dire qu'avoir eu comme premier livre, au lieu d'un Walt Disney, un petit conte pour enfants écrit par Prévert, magnifiquement illustré. Là, je fais attention pour ne pas échapper les pages. Mm-hmm. Et donc, le livre a ouvert non seulement, je dirais, le goût de la lecture, mais en même temps a fait que de commencer par un livre où il y avait une grosse part de poésie et un petit peu d'absurde aussi, tu sais, un petit peu les tournures de langage de Prévert qui s'amuse déjà à jouer avec les mots et tout ça. J'imagine que ça a dû être pour quelque chose après dans mon désir d'aimer la poésie et d'essayer de voir la poésie un peu partout. Je peux vous en lire un petit peu?
Oui, bien sûr.
Juste pour vous donner un peu le style. Il était une fois un petit garçon qui n'était pas gay. Là, il faut dire que c'est écrit en 53. Hein? Je recommence. Il était une fois un petit garçon qui n'était pas gay. Il n'y avait pas beaucoup de soleil là où il habitait. Il n'avait jamais connu ses parents et vivait chez des gens qui n'étaient ni bons ni méchants. Ils avaient autre chose à faire. Ils n'avaient pas le temps. Il y avait une autre fois un petit garçon qui souriait très souvent la nuit en dormant. C'était une autre fois, mais c'était le même petit garçon. On l'appelait Michel Morin, le petit garçon de la Lune, parce que lorsqu'il y avait la Lune, il était content. Et ça part comme ça.
Le fait qu'il s'appelle Michel, est-ce que ça avait motivé, tu penses, les amis de tes parents?
Probablement, puis moi-même, il a dû avoir une grosse part d'identification, parce qu'il s'appelait Michel, il a une petite face ronde, un peu comme la mienne quand j'étais petit. Alors, je sais pas, c'est un je me suis réfugié très souvent dans ce petit livre-là. Au départ, je me le suis fait lire, puis à un moment donné, je le lisais moi-même. Et puis,
tu l'as aussi dans la Pléiade.
Oui, bien c'est ça, j'étais très content de voir que, naturellement, ça a fait que j'ai beaucoup, par la suite, aimé Prévert. Et quand ils ont fait les œuvres complètes de Prévert dans la Pléiade, ils ont remis l'Opéra de la Lune en facsimilé avec les illustrations. Alors là, quand je le lis pour vrai, là, je le lis pas dans cette édition-là, je la laisse précieusement de côté.
Alors, dans tes livres d'adultes, ton premier auteur, c'est Émile Ajar, ouais. Dont tu recommandes les quatre ouvrages. Alors, heureusement, il en a fait juste quatre. L'angoisse du roi Salomon, Gros câlin, La vie devant soi et Pseudo. Un autre de nos invités, Patrick Leduc, le joueur de l'Impact, lui avait choisi un livre de Romain Gary, qui est l'alter ego d'Émile Ajar, Les cerfs-volants,
ouais.
Que tu aimes aussi beaucoup.
Ouais.
Mais donc, Romain Gary, qui est aussi un nom de plume, son vrai nom, c'était Roman Cachou, si je prononce bien. Donc, auteur très connu en France, en 73, il décide d'écrire sous un autre nom,
ouais.
Le nom d'Émile Ajar, et il pousse l'affaire encore plus loin. Il demande à un de ses cousins de jouer le rôle d'Émile Ajar.
Oui, bien, ça vraiment des proportions.
Il y a une apparence physique à Émile Ajar, puis il y a quelqu'un qui va chercher les prix quand Émile Ajar gagne. Donc, tu nous as recommandé les quatre, mais toi, ton favori, c'est L'angoisse du roi Salomon.
Oui, bien, en fait, comme tout le monde, j'avais lu déjà quelques romans de Romain Gary avec beaucoup de plaisir, dont Les Enchanteurs, Éducation européenne. Et quand est sorti La vie devant soi, bien, comme tout le monde, j'ai eu un choc parce que c'était une écriture tellement fraîche, tellement extraordinairement poétique, tout en étant drôle. Dans sa façon de tourner les phrases, il s'est vraiment réinventé, Gary, en prenant ce pseudonyme d'Ajar, parce qu'il a simplifié son style, il est venu à une espèce de d'économie de mots, mais avec toujours le mot, j'allais dire le mot juste, mais justement, quelquefois, c'est pas le mot juste. C'est le mot, par exemple, dans La vie devant soi, si tu as un enfant qui parle, il va prendre le mot qui n'est pas le bon mot, mais qui va le mettre exactement à la bonne place, puis on comprend, et en même temps, ça nous fait sourire, et on comprend même des fois plutôt deux choses qu'une. Là, il passe deux choses en même temps. Alors, de tous ces romans, moi, j'ai eu la chance de tomber sur cette édition chez Mille Pages, Mercure de France, où sont réunies, en fait, les œuvres complètes des Ménageurs par Romain Gary. Alors, on a la chance d'avoir les quatre romans, mais on a aussi la chance d'avoir, au début, un court texte qui s'appelle « Vie et mort » des Ménageurs. Et ça, c'est le testament, d'une certaine façon, le testament littéraire de Romain Gary. Il a écrit ce texte en sachant très bien qu'il allait mettre fin à ses jours, mais c'est d'une lucidité et il explique pourquoi, étant dégoûté, pour employer un anglicisme, de la « game » littéraire, mettons, du jeu de puissance entre les maisons d'édition, les critiques, la mode et tout ça, qu'il a eu ce besoin de se libérer complètement, de se réinventer, d'être quelqu'un d'autre. Il explique pourquoi il l'a fait, il explique comment il l'a fait. Et il termine avec ces mots inoubliables. Et les échos qui me parvenaient des dîners dans le monde où l'on plaignait ce pauvre Romain Gary qui devait se sentir un peu triste, un peu jaloux de la montée météorique de son cousin Émile Ajar au firmament littéraire, alors que lui-même avait avoué son déclin dans « Au-delà de cette limite, votre ticket n'est plus valable ». Trois petits points. Je me suis amusé, je me suis bien amusé, au revoir et merci. Et ça, c'est sa lettre pré-suicide. Alors, c'est assez émouvant. J'ai choisi L'angoisse du roi Salomon parce que c'est un livre, c'est un roman, je pense que c'est la synthèse de tout ce que Gary a écrit, c'est ce qu'il a écrit de plus beau. C'est l'histoire d'un vieux monsieur riche, qui a fait son argent dans le prêt-à-porter. C'est un juif du Sentier à Paris. Il s'appelle Salomon Rubinstein, qui a été élevé par ses parents au départ pour être pianiste virtuose, comme l'autre Rubinstein, mais ça n'a pas marché. Alors, il est devenu le roi du pantalon. Et après une vie, donc, bien, bien remplie, où il a fait beaucoup d'argent, il se retrouve seul. C'est un être d'une solitude, d'une grande solitude. Et au lieu de se morfondre dans sa solitude, il décide de faire le bien autour de lui, mais d'une façon très spéciale. Il ouvre dans son appartement un bureau de service téléphonique, un SOS solitude là par téléphone, pour aider les gens qui s'ennuient, qui sont vieux et qui sont tout seuls. Et il engage le narrateur, qui est un jeune chauffeur de taxi, il l'engage pour aller faire des courses pour lui, aller porter des fleurs à des gens qui s'ennuient, puis tout ça. Et il y aura un triangle dans cette histoire entre M. Salomon, Jean, le narrateur, et une chanteuse réaliste sur le retour d'âge qui s'appelle Cora Lamener, qui a eu des succès dans les années 30-40 avec des chansons où des prostituées meurent dans la Seine avec leur bébé, des chansons réalistes de l'époque. En tout cas, tout ça pour dire qu'il y a une espèce d'histoire d'amour et d'amitié qui se bâtit autour de ce personnage-là. Et le personnage de M. Salomon est un personnage extrêmement touchant. Et moi, chez Romain Gary, autant les tournures de langage, comme je disais tout à l'heure, par exemple, il va dire... La chanteuse réaliste a sauvé M. Salomon pendant la guerre en l'aidant à se cacher, alors qu'il était juif. Alors, quand le narrateur en parle, il dit « Oui, oui, elle l'a aidé pendant la guerre en tant que juif. » Alors, il saute, il va comme ça, il fait des ellipses comme ça. Je vais vous en lire un petit bout juste pour vous montrer, je pense que ça vaut toujours la peine de montrer qu'est-ce qui nous attire chez quelqu'un. « Je me suis vite aperçu que bien que très riche, M. Salomon était seul au monde. » La plupart du temps, je le trouvais assis devant son grand bureau de philatéliste, une loupe dans l'œil, et il regardait les timbres avec plaisir comme de vrais amis, et aussi les cartes postales qui lui parvenaient du passé et de tous les coins de la terre. Elles ne lui avaient pas été adressées personnellement, car il y en avait qui avaient été mises à la poste au siècle dernier, quand M. Salomon existait à peine, mais c'est chez lui qu'elles sont arrivées pour finir. Alors là, il parle de l'amour de M. Salomon pour des cartes postales et surtout pour le texte qu'il y a derrière. Il y en avait une qui représentait une jeune fille habillée comme au début des temps modernes, avec quatre petits garçons en costume de matelot et en chapeau de paille canotier, qui disaient « Chérie, chérie, Nous pensons à toi jour et nuit. Reviens vite et surtout couvre-toi bien et mets ta ceinture de flanelle, ta Marie. » Et le plus bizarre est que M. Salomon a lu cette carte et puis il est allé s'acheter une ceinture de flanelle. « Je n'ai rien demandé. J'ai fait celui qui n'a rien remarqué, mais j'en ai eu froid dans le dos, comme solitude, rien et personne. » Alors, à un moment donné, il trouve une carte. M. Salomon avait trouvé chez Dupin Frère, impasse Saint-Barthélemy, une carte postale avec la photo d'une odalisque qu'ils avaient alors en Algérie, qui était encore française, et au dos, il y avait des mots d'amour. « Je ne peux pas vivre sans toi, tu es ce qui me manque le plus au monde. Je serai à 7 heures vendredi sous l'horloge Place Blanche. Je t'attends de tout mon cœur, ta Fanny. » M. Salomon a tout de suite mis cette carte dans sa poche, et puis il a regardé l'heure et le jour sur sa montre suisse de grande valeur. Le vendredi suivant, à 6h30, il s'est fait conduire Place Blanche et il a cherché l'horloge, sauf qu'il n'y en avait pas. Alors, il va faire un pèlerinage là. Et là, le narrateur lui demande, « Monsieur Salomon, excusez-moi, mais pourquoi faites-vous ça? Cette môme, il n'y a plus rien qui en reste. Alors, enfin, quoi? » Il a incliné la tête comme pour dire, « Bien sûr, bien sûr. Mon petit Jean, on va bien se recueillir sur les lieux où ont vécu Victor Hugo, Balzac ou Louis XIV, n'est-ce pas? » Mais c'était des gens très importants, M. Salomon. Victor Hugo, c'était quelqu'un. C'est normal qu'on pense à eux et qu'on se recueille avec émotion à leur mémoire. Ils étaient historiques. Oui, tout le monde se souvient des hommes illustres et personne ne se soucie des gens qui n'ont été rien, mais qui ont aimé, espéré et souffert. Ceux qui ont reçu humblement notre prêt à porter comme à leur naissance et qui l'ont traîné humblement jusqu'au terminus. Alors moi, ça m'attire.
Auteur québécois, mm-hmm. Patrice Desbiens.
Ah, mon Dieu, oui.
Un pépin de pomme sur un poêle à bois.
Ouais.
Alors, comment tu as connu Patrice Desbiens? Comment tu l'as croisé?
Bien, je l'ai connu au départ par la voix de Richard Desjardins. Si je ne me trompe pas, Richard avait fait une chanson à partir de poème qui s'appelle « Caisse pop », juste pour vous donner tout de suite comment ça frappe en coup de poing la première fois qu'on entend ou qu'on lit du Patrice Desbiens. Ça s'appelle « Caisse pop ». La caissière à la caisse populaire relève sa robe et me montre son guichet automatique. Elle m'avertit que j'ai besoin de 2 pièces d'identité. Je baisse mes culottes et je lui montre ma carte de guichet. Elle la tourne et la retourne. Là, je vais arrêter parce qu'on va m'accuser de… Mais ça frappe. Alors, Patrice Desbiens, la première fois, ça frappe. Je sais pas, je l'ai entendu là, et ensuite j'ai entendu Patrice Desbiens lui-même réciter sa poésie. Et Patrice est très rock'n'roll dans la vie, à tout point de vue. Et je sais pas si j'ai quand même une certaine réputation d'être un bon petit gars de famille, propre et sans irréprochable, je ne le suis pas vraiment. Mais j'ai toujours eu besoin, dans ma vie, comme bien du monde, de rock'n'roll et de littérature rock'n'roll. J'ai lu Bukowski, j'ai lu Jack Kerouac, des gens que j'aime beaucoup. Et j'ai retrouvé en Desbiens non seulement une voix proche, très, très proche de moi, très proche de ce qu'on est, mais cette espèce de, je dirais, de dualité incroyable entre le bas-fond et le très-haut, tu sais, parce que ça sent la bière, ça sent la boucane, et en même temps, ça touche à des choses qui sont d'une beauté extraordinaire. Alors, il y a des poèmes d'amour, il y a beaucoup d'humour aussi, il y a de l'humour dans son affaire. Je me souviens d'avoir entendu à un moment donné quelque chose qui avait été mis en musique, il le récitait lui-même, sur une musique de René Lucier. Et j'essaie juste de le trouver, mais j'ai peut-être pas pris la bonne page. Alors, je cherche comme ça et je parle en attendant. voilà. Alors, juste pour vous montrer un petit peu. Greffe de nuit. Je me réveille dans le milieu de la nuit à la lueur des 2 petits yeux rouges du stéréo. Pas de moment, pas de mémoire, pas de Michel, pas de Michel. Il est 4h15 du matin et à moitié endormi dans la chambre de bain, je me pisse sur la jambe gauche. Je la secoue comme un chien et retourne me coucher. Je me rendors en chignant. Les pattes me bougent. Je me gratte dans le sens du sang. Je me greffe à la nuit. Je rêve que j'écris ce poème. Je ne me répète pas. Je bégaye. Le crayon s'use jusqu'au coude. C'est un crayon avec « Gracieuseté du nettoyeur Saint-Romuald » imprimé dessus. Je suis rendu à ou ailleurs, Saint-Romuald, je continue d'écrire. » Il continue comme ça le poème jusqu'à la fin, où il dit « Je continue d'écrire, il est tard, il est tôt. À quatre saisons, le feu est éteint et les poissons sont morts. Je suis rendu à Saint-Romuald. Après ça, c'est l'efface. » C'est extraordinaire. Et j'ai entendu un jour Michel Faubert, le conteur, chanteur, membre des Charbonniers de l'Enfer et autres, lire en spectacle un texte. Et jusqu'à ce jour, ça reste un texte qui est pour moi un des plus, extraordinaires de Desbiens. Ça s'appelle « Quand la réalité dépasse la fiction ». Quand la réalité dépasse la fiction, c'est toujours dans un tournant par une nuit tassée comme de la tourbe, sous une pluie battante, sous une pluie haletante comme une vieille matante, et il y a rumeur de collision frontale, rumeur de rupture des cœurs et de leur corps. La réalité, c'est une Ford Limited noire qui roule à 120 bons vieux milles américains à l'heure sur la bonne vieille route 2 entre Trois-Rivières et Québec, et le chauffeur de la réalité, c'est Raymond Blouin de Saint-Marc-des-Carrières. Et la fiction, c'est un Christ de gros 18 roues chargé de pierres de Saint-Marc-des-Carrières qui refuse de laisser passer la réalité sur la côte juste après Cap-Santé. Et Raymond Blouin, qui est très réel et pacté comme un paquebot qui prend de l'eau, il est avec sa femme et ses enfants et sa belle-mère et avec une marionnette de fanfan sur une main et une bière dans l'autre, il contrôle le volant et le vent et la vie d'un poète de Timmins, Ontario. Le poète s'en allait à Québec. Il voulait être comme Jack Kerouac, voyager partout dans des voyages fous, dans une voiture pleine de fous, comme avec Neil Cassidy. Mais là, il est pogné avec le Richard Petit de Saint-Marc, et là, il réalise que dans un livre à Timmins, Ontario, c'était moins dangereux. C'était de la fiction. Et alors, entre Timmins et Québec, écrasé au fond de la réalité limited et sur le bord de son lit de mort, le poète fait ses prières dans son pantalon. La triste des biens. Il y a aussi de très beaux poèmes d'amour.
Tu as dit que Richard Desjardins avait chanté un de ses textes. Entre un poème et le texte d'une chanson, c'est quoi la distance? Parce que Leonard Cohen, par exemple, a publié les textes de ses chansons. ça se lit comme des poèmes. Dans ta pratique à toi, tu fais une différence entre les deux?
La différence... Moi, le mot poésie dans ma vie a été quelque chose que j'ai essayé dès le départ, quand j'ai commencé à articuler un peu mon métier et mes ambitions et tout ça. J'ai jamais cru que la poésie était quelque chose qui était réservé aux poèmes et aux poètes. Pour moi, la poésie, c'est quelque chose qui fait partie de la vie, qui se retrouve des fois dans des recueils, qui peut aussi bien faire partie d'un roman, peut aussi bien faire partie d'un traité scientifique. Alors, dans les chansons, d'après moi, c'est pas du cas par cas, mais on peut entendre une très bonne chanson, en extraire le texte, le lire, et ça ne marchera pas. Tout simplement parce qu'il y a une osmose entre le texte et la musique qui fait qu'ils ont vraiment besoin l'un de l'autre. Et ça peut faire des chansons extraordinaires, mais on peut lire à ce moment-là un texte qui ne se tient peut-être pas tout à fait tout seul. Par contre, il y a des textes de chansons qui ont d'abord été écrits pour être des textes, pour se tenir sans la musique. Et d'après moi, la différenciation peut-être peut se faire là. C'est-à-dire que on a... quelquefois, des textes qui peuvent très bien se tenir sans la musique, qui peuvent vraiment avoir leur existence propre. Certaines de mes chansons, je les ai écrites souvent, longtemps avant de mettre de la musique dessus. Et souvent, je ne savais pas encore si ça c'était pour tout simplement rester un poème, un texte que je mettrais éventuellement dans un recueil ou quelque chose que j'écrivais juste pour moi, ou si j'étais pour le mettre en musique. Alors, à un moment donné, c'est la musique qui vient décider que ce poème devient un texte de chanson. Et là, ben peut-être avec la musique, je vais remanier le texte. Alors, moi, dans mon cas, c'est comme ça que je le vois. Mais peut-être qu'un autre auteur-compositeur aurait une autre réponse pour toi. Mais moi, ça a toujours été clair que La chanson bien écrite, c'est de la poésie. Maintenant, est-ce que un texte de chanson est un poème? Ben, peut-être pas toujours. C'est aussi simple que ça.
Tu m'as mentionné, je pense, « Je voudrais voir la mer ».
Oui, « Je voudrais voir, je voudrais voir la mer » avait été écrit au départ sans intention musicale. C'était vraiment une espèce de trop-plein, à un moment donné. Là, j'étais dans une période assez trouble, et puis la seule chose qui semblait... pouvoir me sauver, ça aurait été de voir au moment, là, ce soir-là, je me souviens très bien, là, que si j'avais vu la mer à ce moment-là, alors tout le début, je voudrais voir la mer et ses plages d'argent et ses falaises blanches, fières dans le vent, tout ça a été écrit tout simplement pour être écrit, pour être lu. Et après ça, il y avait Sylvie Tremblay, à l'époque, qui cherchait des chansons. Et là, je me suis dit, ça serait un beau texte pour Sylvie. Alors, j'ai complété le texte. On a fait une musique ensemble. Et à la lumière de la musique qu'on a trouvée, j'ai terminé le texte. Donc, le texte a commencé comme un poème. Il a vécu pendant un petit bout de temps comme poème. Et il est devenu après parole de chanson avec l'apport de la musique.
Fascinant. Là, on arrive au livre que tu as choisi pour le poids... C'est un homme de substance, là, on s'entend. Alors, c'est un livre de Jørgen Tunström, ouais. Si mon suédois me
trompe pas.
Jørgen, pardon, ouais. Tunström, l'Oratorio de Noël, paru en 83.
Ouais.
Donc, sérieusement, qu'est-ce qui t'a attiré vers ce livre?
Bien, ça, c'est à la fois, si tu veux, ce qu'on disait tout à l'heure, l'amour de l'objet. C'est un livre Actes Sud. Alors, je ne sais pas si sûrement les gens se souviennent, quand les livres Actes Sud sont arrivés, c'était très étonnant comme format. C'était plus long, plus haut que tous les autres. Et déjà, ça attirait l'œil. Et j'étais à Paris. Et comme toujours en voyage... Je m'apporte des livres, mais rendu là-bas, je vais en acheter d'autres. j'ai une espèce de besoin maladif d'entrer dans les librairies puis de me laisser séduire quelquefois par le livre lui-même ou alors tout simplement en feuilletant, en lisant quelques pages puis en lisant la couverture. Mais là, je me souviens très bien que ça a été un coup de foudre même à travers la fenêtre, à travers la vitrine. J'ai vu cette espèce de visage de porcelaine tiré probablement d'un vieux tableau suédois. Ce nom que j'arrivais pas du tout à prononcer, que je savais pas comment prononcer, alors quand on le lit, on dit Göran Tunström. Et puis, l'Oratorio de Noël. Bon, l'Oratorio de Noël de Jean-Sébastien Bach est une œuvre que j'aime beaucoup. Et puis, je sais pas, ça a fait, tiens, l'Oratorio de Noël, puis là, je voyais pas trop. Je suis rentré, j'ai pris le livre dans mes mains, et là, c'est la première fois que je touchais à un livre Actes Sud. Et il y a un poids dans ces éditions-là, il y a une façon de tourner les pages, il y a une épaisseur de papier qui m'a séduit dès le départ. La grosseur du caractère... C'est fou, là. C'était complètement physique. Là. J'avais aucune idée de qui c'était ce monsieur. J'ai pris le livre, puis j'ai aimé ça. J'ai aimé le poids. J'ai commencé à feuilleter. Et là, j'ai lu derrière. Et j'ai été tout de suite attiré. On nous dit, dès les premières pages de l'Oratorio de Noël, nous savons que nous allons être emportés par un fort courant romanesque aux confins de l'éblouissement, de la folie, de la mort et de l'amour. Trois générations de Nordenson, que dominent trois hommes, Aaron, Sidner et Victor. Et là, je continue à lire, et là, on nous dit que les femmes ne sont pas absentes de ces tribulations pathétiques, et en particulier Solveig, l'épouse d'Aaron, qui meurt dès les premières pages, piétinée par un troupeau de vaches sous les yeux de son fils. Là, j'ai dit, waouh, qu'est-ce que c'est ça? Et j'ai tout de suite, je ne sais pas si vous faites ça, mais moi, mon habitude, c'est de en librairie, de donner une chance aux deux premières pages, peut-être. Juste voir si quelque chose va venir me chercher, juste dans la façon de m'accrocher là, dès le début. Et ça fait ça. Ça fait ça. Ce livre-là, pour moi, est important. Bon, premièrement, l'histoire est absolument magnifique. C'est donc trois générations de Nordenson. Aaron, qui se trouve à être le mari de cette magnifique Solveig. Ils vivent à la campagne. Elle s'en va au début de l'histoire. Elle s'en va. Elle a une voix magnifique. C'est naturellement, tu lis ça, puis là, tu rêves à la Suède, puis tu vois la belle femme blonde en santé qui vit à la campagne, qui chante divinement, qui s'en va répéter l'oratorio de Noël avec la chorale du village. Ils sont pas très bons, mais ils se sont donné une dizaine d'années pour apprendre l'oratorio de Noël. Et là, elle a une nouvelle bicyclette qu'Aaron lui a donnée. Alors là, tu vois la petite famille, tout est beau, tout va bien, on est en Suède, il fait beau, let's go. Elle descend la côte et elle se fait piétiner par un troupeau de vaches. Et à partir de ça, Aaron va essayer de refaire sa vie avec son fils Sidner et sa fille. Ils s'en vont dans la ville de Sun et il commence à réorganiser sa vie, mais le fantôme de Solveig va toujours être là. Et là, entre les personnages secondaires, et c'est exactement comme un oratorio, il y a comme des moments de chorale, il y a des moments, des solos. Et l'histoire se déroule comme ça pendant plusieurs années. Je suis très mauvais pour raconter les histoires. Vous avez probablement remarqué que j'ai une espèce de mémoire des livres qui fait que ce que je retiens, c'est souvent beaucoup plus les impressions, ce que le livre m'a fait, que l'histoire comme telle. Mais ce que j'ai aimé dans ce livre, c'est cette espèce de... Je dirais, c'est comme un peu comme quand on parle des auteurs latins comme Gabriel Garcia Marquez, on parle du réalisme magique. Et ça, il y en a là-dedans. Il y a cette espèce de truc inexpliqué à un moment donné qui est là, le fantôme de la femme qui est là, dans la pièce avec lui, puis il parle, puis ça, après ça, il s'en va. Puis c'est je retrouvais ça, mais sans... moi, j'ai adoré « Cent ans en solitude » de Gabriel Garcia Marquez, mais je suis un petit peu allergique à la chaleur. C'est fou, là. Mais je suis tellement plus attiré par la littérature nordique que par la littérature du Sud, que là, j'avais cette espèce de charme là, du réalisme magique, mais en même temps, j'avais la nordicité. Je suis très, très sensible à ça. Je suis un gars d'automne, un gars d'hiver, et j'aime les livres, la littérature nordique, pour moi, toute la littérature scandinave, est à la fois très proche de nous par ça, par l'hiver, et à la fois très exotique, parce que c'est vraiment une autre façon d'agir et de vivre. Alors, je suis entré dans ce livre-là, j'en suis peut-être maintenant à ma troisième relecture. À chaque fois, je découvre des choses magnifiques. Il y a l'auteur suédois Selma Lagerlöf, qui est un classique, celle qui a écrit le fameux livre pour enfants, le Nils Holgersson, Les voyages de Nils Holgersson à travers la Suède, qui est un personnage du roman aussi. Alors, c'est complètement inventé, cette relation avec les personnages, mais il se permet des choses comme ça. Et c'est un auteur que j'ai eu le plaisir de rencontrer aussi, par un très beau cadeau que Marie-Christine Trottier m'a fait à un moment donné, une rencontre. Il venait à Radio-Canada faire la promo de son roman, et puis j'ai eu droit à un dîner en sa compagnie. Et c'est un être charmant qui, malheureusement, nous a quittés. Bravo. Mais c'est un... Et ce livre-là, pour moi, est très important aussi parce qu'il m'a, je dirais, ouvert à la littérature scandinave. J'ai découvert après Torgny Lindgren, que j'ai beaucoup aimé. Et naturellement, le jour où j'ai mis... J'en ai pas apporté de polar aujourd'hui, j'en ai pas mis sur ma liste. Mais j'ai adoré toute la série des Henning Mankell, de Joe Nesbø, le Norvégien, et puis naturellement récemment Stieg Larsson. Je suis comme en partant sympathique à la littérature nordique. Ça me touche beaucoup.
Ensuite, tu as choisi Winter's Tale, publié en français sous le titre, pardon, de « Contes d'hiver » de Mark Elprin. Et peu connu pour les lecteurs francophones. Toi, tu l'as découvert comment?
J'ai découvert, c'est un ami, c'est mon ami Marc Desjardins qui me l'a offert à un moment donné en me disant « Lis ça ». J'avais jamais entendu parler de Mark Halperin, et même à ce jour, je le connais pas beaucoup, Mark Halperin. J'ai su récemment qu'il était de droite. C'est un gars qui étudiait à Harvard, puis que c'est une espèce de penseur politique, philosophe et professeur d'université, en tout cas tout ce que je ne suis pas. Ce livre-là, écoute, c'est un de mes livres préférés au monde, et c'est celui dont j'ai le plus de difficultés à parler. Alors, je vais essayer d'y aller lentement, pour essayer de vous faire ressentir un peu ce que je ressens. C'est un livre qui se passe à New York, sur un siècle. Sauf que le New York dont il est question n'est pas le vrai New York. C'est une espèce de New York mythologique. Plus grand, plus gros, plus New York que nature. Ça commence au début du siècle dernier, donc au tournant du 19e et du 20e. C'est le début. Alors, je ne sais pas s'il y en a qui ont vu le film Gangs of New York. C'est un peu au départ l'atmosphère. Là, c'est un New York très sauvage, tout ça. Mais à côté de ça, le début des gratte-ciels, le début c'est l'âge de la machine, l'âge de la machinerie et tout ça. Et on décrit cette espèce de New York qui est grouillant, bouillonnant de vie. Et arrive un personnage qui est fils d'immigrants. Les immigrants arrivent à New York et on leur dit « Vous ne pouvez pas rester, vous devez repartir, je ne me souviens plus exactement pourquoi. » Et là, eux autres veulent tellement laisser leur enfant, veulent tellement que leur enfant ait une nouvelle vie, que dans le bateau par lequel ils sont arrivés à New York, il y a un modèle réduit du bateau. Ils cachent leur bébé dedans et ils le laissent aller dans l'eau du port. Et là, le petit bateau avec le bébé dedans, au lieu de se retrouver à New York, se retrouve de l'autre côté, se retrouve au New Jersey. Mais là, attention, là, on tombe dans la fabulation la plus pure. Il tombe chez une tribu de pêcheurs de palourdes qui s'appelle les Baymen, qui sont des espèces d'indigènes, mais c'est pas du tout des Amérindiens. C'est une espèce de peuplade qui vit là, qui se nourrit des fruits de mer qu'ils ramassent et qui ont des mœurs très, 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 des mœurs tribales, mais très avancées, avec l'amour libre et tout ça. Et là, le jeune bébé se retrouve là-dedans, il est élevé par eux, mais à l'âge de 12 ans, les règlements de cette tribu-là font qu'ils ne peuvent pas le garder, alors ils l'envoient à New York. Alors là, le jeune, il s'appelle Peter Lake, il arrive à New York, et là, de fil en aiguille, il va être voleur dans une gang, il va devenir mécanicien, il va être pris en charge par un chef mécanicien. Mais je le dis, et ça a l'air banal, alors que tout ça est comme, je dirais, essayez d'imaginer une histoire qui se passe à New York, mais qui serait dessinée par le cinéaste Tim Burton ou par celui qui a fait récemment Alice au Pays des Merveilles. Attends, c'est Tim Burton qui a fait Alice au Pays des Merveilles? Non, celui qui a fait le Docteur Parnassus. Comment il s'appelle l'ancienne Monty Python?
Oui,
Terry Gilliam.
Terry Gilliam.
Alors, cette espèce de fusionnement d'images, de choses extraordinaires qui se passent, qui sont toujours exagérées, c'est toujours en mouvement. Alors, Peter Lake va devenir un chef mécanicien et un jour, aura pas de travail, il va retourner au vol. Et là, va aller voler dans une résidence très riche et va tomber en amour avec Beverly. Beverly, elle fait ce qu'on appelle, elle est consomption, comme on disait au Québec. Elle a des problèmes d'asthme, tout ça. Et elle vit dehors. Elle vit sur le toit de sa maison, hiver comme été. Et là, le mot-clé, c'est hiver. C'est un roman où à la fois New York et l'hiver sont des personnages principaux. Mais d'une manière qui frôle, je dirais, le mythologique. Là, tu sais, c'est énorme. Et tout ça est beau, touchant, drôle, poétique. Et la première partie du livre se passe normalement. Le temps est à peu près normal. Mais dans la deuxième partie du livre, Peter Lake est happé par ce qu'on appelle le mur de nuages. Parce qu'autour de New York, il y a une espèce de gros mur de nuages qui bouge tout le temps. Et lorsque quelqu'un est happé par le mur de nuages, il disparaît, mais il peut revenir quelques années plus tard, mais dans un autre dans un autre temps. Alors, on est complètement dans le fantastique, on est dans l'imaginaire, mais avec en même temps une espèce de d'amour pour cette espèce de fourmilière incroyable qui est New York. Alors, c'est un livre que, donc, je ne soupçonnais pas l'existence. Et depuis que je l'ai lu, ben, c'est un livre qui m'a complètement chaviré, qui m'a bouleversé. Et j'y repense souvent. C'est un livre qui est très, très présent dans ma vie.
L'autre livre que tu nous recommandes, c'est, en fait, c'est une collection qui s'appelle Collected Stories de Raymond Carver. Et il y avait une histoire extraordinaire dans le journal sous la plume de Louis Hamelin cette semaine. En fait, un de ses livres les plus célèbres à Carver s'appelait « What We Talk About When We Talk About Love ».
Un traduit, de ses premiers recueils de nouvelles, je pense.
Traduit sous le titre de « Parlez-moi d'amour ». Et là, la critique était dithyrambique parce qu'il disait « Quel style extraordinaire, lapidaire, jamais un mot de trop, tout est mesuré ». Et on a retrouvé, 17 ans plus tard, son manuscrit. Il vient d'être publié sous le titre « Beginners en anglais, débutants en français ». Et là, on s'aperçoit que c'est son éditeur qui avait complètement charcuté son texte. C'est beaucoup plus long, plein d'émotions, plein de sentiments, plein de longues descriptions, d'apartés. Alors, c'est vraiment... moi, en lisant ça, puis je savais que c'est comme Émile Ajard à l'envers. Là, le gars le gars est son double. Mais toi, ce que tu nous as dit, c'est que...
Moi, ce que j'aime, c'est qu'il n'y a pas d'émotion, que ce soit lapidaire.
C'est ça.
Alors, quel bon éditeur.
Mais en effet, dans le fond, ce que tu nous as dit, c'est que Carver, c'était tout ce que tu aimes de la culture américaine.
Oui, c'est-à-dire que c'est pour moi, c'est... premièrement, j'aime beaucoup les nouvelles. Si un jour, je pousse jusqu'à écrire, c'est probablement les nouvelles qui m'attireraient le plus parce que c'est un peu ce que j'essaie de faire en chanson. C'est une espèce de nouvelle de 3 minutes. Et moi, j'ai découvert Raymond Carver par le cinéma. J'aime beaucoup le cinéma. J'aime beaucoup le cinéma américain. J'ai été et je reste un grand fan des films de Robert Altman. Et surtout ces films choraux, là, où il y a plein de personnages et d'histoires qui s'entremêlent. Et un des plus beaux qu'il a fait, d'après moi, c'est Shortcuts. Et Shortcuts, ce sont des nouvelles de Raymond Carver qui sont tout simplement scénarisées pour s'entremêler les unes les autres et tout ça. Alors, quand j'avais vu le film d'Altman, j'avais trouvé les histoires absolument extraordinaires et en même temps très ordinaires. Alors, j'ai été attiré donc par la lecture des nouvelles de Carver. Et c'est drôle parce que c'est vraiment un mauvais jeu de mots, mais bon, Carver, c'est on coupe, je pense.
Absolument.
Carving knife. Là,
c'est ça.
Et quand je lis les nouvelles de Carver, j'ai l'impression qu'il prend la vie de quelqu'un puis il tranche au milieu. Il va chercher juste une tranche là, quelque part, d'une manière quasiment aléatoire, puis il nous sort cette tranche-là, puis il la décrit, justement, c'est drôle que...
Oui, que... je te dis pas tous les jeux de mots que dont les Français sont très friands qu'ils ont fait autour de cette histoire.
Oui, ça,
Carver, le découpeur,
c'est ça, exactement. Mais tout ça pour dire que moi, ce que j'aime chez Carver, c'est ça, c'est cette espèce d'idée de prendre une vie, la vie d'un couple, la vie d'une famille, un individu, tout ça, et de faire une nouvelle avec presque rien, avec un petit moment, un moment troublant ou un moment qui s'en va vers quelque chose de troublant où il s'est passé quelque chose, où on ne sait pas trop. J'aime ça aussi qu'on nous laisse, tu sais, qu'on nous laisse imaginer ce qui vient avant, ce qui vient après. Je relisais cette semaine, je refeuilletais un peu tous ces livres-là. Et dans le cas de Carver, je suis tombé sur une nouvelle qui s'appelle Cathedral, qui est le titre aussi d'un recueil, donc Cathédrale. Et il a le don, quand il prend la voix d'un narrateur, qui est souvent un des personnages, là, de vraiment, en très peu de détails sur où est-ce qu'on se trouve ou quel âge ont les personnages, juste la façon dont il parle. on voit se dessiner vraiment là, des personnages très précis. Et là, on a un gars qui nous dit comme ça que sa blonde a un ami aveugle qu'elle connaît depuis très, très, très longtemps. Ils ont correspondu pendant longtemps. Ils s'envoyaient des cassettes. Au lieu de s'envoyer des lettres, ils s'envoyaient des cassettes. Et puis, là, elle l'a invité à souper. Puis, ça ne fait pas mon affaire. Je ne suis pas à l'aise avec ça, un gars aveugle. Je n'en connais pas d'aveugle, moi, tu sais. Puis, alors, tu sais, tu as un ton bourru là, de quelqu'un, tu vois, qui a une certaine réticence à ce qui n'est pas, tu sais, ce qui n'est pas dans ses normes à lui. Alors, il décrit la soirée comme ça. Il décrit un peu la relation de la blonde avec le non-voyant. Et à un moment donné, l'aveugle, je ne me souviens plus comment il s'appelle exactement, Robert, je pense, en tout cas, arrive. Puis là, ben, on sent qu'il y a une espèce de malaise. Et puis, il décrit tellement bien le malaise, juste avec justement une économie de dialogue puis des trucs comme ça. Et plus la soirée avance, soirée bien arrosée, ça boit du scotch, on est autour de la table, puis il parle de tout et de rien. Et lui, naturellement, essaie de poser des questions sur, tu sais, comment c'est à être aveugle. Puis l'autre répond avec toujours beaucoup d'humour, puis tu sais, avec des espèces d'anecdotes où il raconte qu'il est allé s'acheter une télévision en couleur, puis il voit la différence, même au son, il voit la différence entre la TV en couleur et la TV noir et blanc. Alors, le personnage principal, tu vois qu'il s'ouvre un petit peu, mais il est quand même sur une petite gêne, mais là, il boit, puis tout ça. Et puis là, la blonde, celle qui a invité le personnage aveugle à passer la nuit, parce qu'il est venu visiter quelqu'un dans cette ville-là, elle est là, ça s'endort ou quelque chose. Eux autres, ils se roulent un joint, puis là, ils jasent, mais tu sais, ils sont comme, tu t'aperçois que l'autre est de plus en plus à l'aise. Et puis là, à un moment donné, la télévision est ouverte et il y a un documentaire sur les cathédrales. Puis les deux sont un petit peu buzzés par l'alcool, puis le pote, puis l'aveugle écoute, naturellement, puis l'autre regarde. Puis, à un moment donné, il dit, « Sais-tu c'est quoi une cathédrale? » Il demande, « Qu'est-ce que c'est une cathédrale? » Et l'autre, il dit, « Ouais, je pense que je sais à peu près. » Mais alors, ils se mettent à parler des cathédrales. Le gars qui a aucun intérêt particulier, mais là, par la curiosité, il se met à parler de cathédrales. Et, je vais rapidement à la fin, l'ami aveugle dit, « As-tu du papier? » Il dit, « Va chercher du gros papier et un bon crayon. » Il dit, « Pourquoi? » Il dit, « On va dessiner une cathédrale. Tu vas m'aider à dessiner une cathédrale. » Et là, les deux finissent la nuit avec un sac en papier brun, tout déchiré, un crayon à mine. L'aveugle met sa main sur la main du narrateur. Et là, le narrateur essaie de dessiner une cathédrale. Et l'aveugle dit, « Oui, oui, OK, je la vois. » Et la blonde se réveille à ce moment-là et les voit en train de faire ça. Puis ça arrête là. Moi, je trouve ça absolument magnifique. Ça nous laisse, tu sais, ça nous prend une place, ça nous rentre dans la vie de quelqu'un, puis ça nous laisse avec ce qui va se passer après, comment ça va finir, tu sais. Et puis, en tout cas, donc, beaucoup de respect pour ce M. Carver, même...
Malgré l'éditeur.
Malgré l'éditeur.
Tintin.
Tintin au Tibet.
Il y a 24 albums de Tintin, là, j'inclus l'Alphard et ouais, puis au pays des Soviets, etc. Pourquoi tu as choisi celui-là parmi les 24?
Bon, premièrement, comme beaucoup de garçons de ma génération, Tintin a été vraiment un ami d'enfance. Mais Tintin au Tibet, puis là, je suis fier de vous montrer que j'ai encore ma version originale, même si je ne suis pas un bon archiviste, un bon collectionneur. Et Guy m'a certifié que c'était la version originale parce que l'avion d'Air India s'appelle encore Air India. Ça a été changé par la suite.
Alors que dans les versions plus récentes, ça s'appelle Sari Air.
C'est ça. Alors, moi, ce que je me souviens, c'est qu'à l'époque, bon, les Tintins arrivaient régulièrement, puis on les lisait, puis on se les passait entre cousins, puis nos mères mettaient du tape pour essayer de les tenir ensemble à un moment donné. On les lisait, on les relisait. Jusqu'à ce jour, je persiste à dire qu'Hergé est un génie, un dessinateur extraordinaire. Il y a bien des choses qu'on peut lui reprocher, mais pour moi, il n'y a pas une image dans un Tintin que je mettrais pas sur mon mur. C'est magnifiquement bien dessiné. Les personnages sont extraordinairement attachants, on les connaît par cœur. Mais quand Tintin au Tibet est arrivé, il y avait quelque chose de plus. Il y avait dans ce Tintin-là une émotion très différente des autres. Il y avait cette quête de trouver un survivant, l'ami Chang, l'ami chinois, survivant de l'écrasement d'un avion. Et puis, dans un Tintin, c'est assez dur, là, juste comme idée qu'il y a 125 personnes qui sont mortes. Là, on ne les voit pas naturellement, mais on sait qu'elles sont là. Alors, tout ce qui vient avec le courage, la détermination, le côté télépathique un peu aussi, Tintin qui sent qu'il s'est passé quelque chose. Il sent que son ami est encore vivant et il est déterminé à aller le chercher. Le paysage, la blancheur du paysage, l'espèce de froid qu'on ressent tout le long, parce qu'en plus, ils sont jamais assez habillés d'un Tintin, t'as remarqué ça? Ils s'en vont au Tibet, puis ils ont une espèce de petits anoraks, là, c'est même pas des canucks, ouais. des kiwis, tu sais. Et puis, naturellement, le personnage extraordinairement mystérieux et coloré, et même finalement attachant, du Yeti. Je sais pas, tout ça a fait que le côté mystique aussi, le Tibet, les moines bouddhistes, par la suite, le bouddhisme a été très important dans ma vie. Je sais pas, il y a quelque chose là-dedans qui, déjà à l'époque, était très différent des autres albums. Et quand j'ai relu plusieurs fois dans ma vie tous mes Tintins, quand j'ai relu celui-là, j'ai retrouvé justement les émotions que j'avais eues dans mon enfance et je me suis souvenu à quel point celui-là m'apparaissait, même à 10, 11 ans, comme un Tintin différent, un Tintin plus sérieux, plus avec un peu de spiritualité dedans, avec plein de choses, mais de l'humour. Et c'est ça aussi que je trouve extraordinaire, c'est qu'on peut passer du drame de l'avion écrasé à une connerie du capitaine Haddock en deux images. Et ça, cette espèce de côté là, dans la vie que l'humour doit toujours être là, il n'y a pas de moment où l'humour ne peut pas venir nous aider à vivre quelque chose, ben je l'ai retrouvé peut-être pour la première fois dans ce livre-là. Et puis, c'est un principe que j'ai toujours, par la suite, essayé d'appliquer.
Merci beaucoup, Michel. Écoute, je sais que tu es un peu en retraite fermée avec les filles de Caleb, donc tu n'as peut-être pas vu ça passer. Tintin et le Québec, que je t'offre, qui Mon est paru Dieu. Le week-end dernier.
J'ai pas eu le temps d'aller dans les librairies.
C'est pas Tintin au Québec, mais c'est Tintin et le Québec. Et en revanche, la planche qui fait la page de couverture a vraiment été dessinée par Hergé.
Ah oui?
Ça, c'est Tintin à la cabane à sucre et colorié récemment là, par les éditions de Moulinsart, je pense.
Wow, c'est mais je suis touché, merci
Donc,
beaucoup.
Donc, merci de t'être prêté au jeu.
Merci à vous. Merci de m'avoir invité, premièrement.
C'est gentil.
Merci de m'avoir invité. Je m'excuse pour ma mémoire défaillante quand vient le temps de raconter les histoires, mais j'ai vraiment aimé ces livres-là beaucoup.
Alors, écoutez, notre émission de télé est terminée, mais on a un bon 15-20 minutes pour les questions. Alors, je ne sais pas si on a mis des micros dans la salle. Moi, je suis assez aveuglé.
Oui, je pense qu'il y en a.
Si vous voulez, vous pouvez vous exprimer au micro. Ou si c'est plus simple, vous vous levez et vous le dites avec une voix de standard, puisque cette partie-là ne sera pas télévisée. Alors, même si vous n'êtes pas habillé aux arts, vous pouvez vous présenter au micro. Est-ce qu'il y a des questions pour Michel?
Ouais. Moi, j'aimerais savoir si quand tu lis des auteurs américains, tu les lis en anglais ou tu lis des traductions?
La plupart du temps, j'ai eu ce bonheur, en fait, très tôt, je me souviens que j'ai commencé à lire des trucs, des auteurs américains dans le texte, même si je savais que j'en perdais la moitié. Je me disais, bon, ben un jour, je les relirai, puis je comprendrai. Mais je voulais me mettre tout de suite la musique. Je trouve ça important quand on peut retrouver la musique du départ. Par contre, je lis, je suis sans être du tout un spécialiste, je pense que je suis capable de savoir quand est-ce qu'une traduction est bonne. Et je dois dire qu'il y a des moments où j'aime lire une traduction, notamment les livres de Paul Auster, je les ai tous lus en français. Les premiers, j'ai découvert Paul Auster avec les traductions. J'ai toujours trouvé qu'elles étaient très, très bien écrites. Par la suite, je suis allé lire en anglais. Mais je dois dire que j'ai cette chance-là maintenant d'être capable vraiment de lire en anglais très bien. Puis je trouve que c'est préférable d'une certaine façon et je respecte énormément le travail des traducteurs. Mais j'ai la chance de pouvoir les lire en anglais. Alors, j'essaie de les lire en anglais la plupart du temps.
Il y a quelqu'un pour une question là-bas, oui.
Salut.
Oui, bonjour.
Tu as parlé, les livres que tu as présentés, c'était essentiellement des livres de fiction.
Oui.
Je me demandais s'il y avait quelque chose qui était plus du domaine de l'essai ou de la politique qui t'avait marqué beaucoup.
Je ne lis pas d'essai politique comme tel. Je lis les journaux, mais je veux dire, non, je sais pas, c'est quelque chose que j'ai beaucoup de difficultés. J'ai pas justement peut-être à cause du fait que j'ai une certaine façon bien impressionniste de lire. J'ai lu quelques essais philosophiques, j'ai lu quelques livres de spiritualité, aussi notamment sur le bouddhisme. Récemment, si on s'était rendu jusqu'à, si on avait eu plus de temps, le dernier livre que j'ai lu, c'est un livre de Jean Dormesson qui s'appelle « C'est une chose étrange à la fin que le monde ». C'est une espèce de survol de l'histoire du monde scientifique et philosophique, et où il met toujours en rapport l'histoire du monde et le problème de l'existence ou de l'inexistence de Dieu. Et ça, tu vois, ce livre-là, je l'ai adoré, donc c'est pas de la fiction. C'est vraiment un essai, mais j'en lis moins que de la fiction. J'en lis un de temps en temps, mais on dirait que, je sais pas, étant moi-même quelqu'un qui essaie de traduire la réalité que je vois par des espèces de petites fictions qui sont des chansons, je suis plus à l'aise dans la lecture de fiction. Et souvent, je trouve qu'il y a des très grandes vérités qu'on trouve là, qui sont aussi valables que celles qui se retrouvent dans les essais et les livres plus sérieux, disons.
Monsieur.
Oui. Moi, la première fois que je vous avais... Je m'excuse si ça ne vous dérange pas si je vous parle quand je vous avais entendu...
Non, pas du tout.
Les livres et tout ça.
Ah, non.
Moi, si je ne me trompe pas, c'était l'année passée avec l'OSM et Jean-François Lévy que vous avez...
Oui.
Festival de francophone.
Oui. Francophonie.
J'étais complètement... C'est par hasard que j'étais dans le quartier Centre-Ville et j'adorais, ça m'a tellement, moi je pouvais toucher.
Merci beaucoup.
Et j'aimerais savoir, est-ce que c'est un disque avec...
Oui. Oui, il est en vente à la sortie. Non. J'en ai d'ailleurs ici un. Merci. Oui, il y a un disque qui s'appelle Rivière, qui est un, je dirais peut-être une, je ne sais plus, 11 ou 12 chansons. De mon répertoire réinterprété de manière symphonique. Non, elle n'est pas accordée, mais j'ai même pas essayé.
Elle n'est pas à lui.
Elle n'est pas à moi. Elle fait partie du décor, mais
ouais.
Je vais respecter le mandat de cette soirée. Vous viendrez me voir une autre fois.
Merci à tous. Merci de vous être déplacés. À une prochaine.
Merci beaucoup. Hey, merci, c'est super, ça. Je ne savais même pas que ça existait.